Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 19 mai 2023. Le président soudanais Abdel Fattah al-Burhan limoge son rival, le général Mohamed Abdan Daglo, du poste de vice-président du Conseil souverain. Au Burkina Faso, un médecin australien de 88 ans a été libéré 7 ans après son enlèvement. En Guinée, les associations de presse accusent la junte d'actes de censure.
Tous les propos à attiser les tensions politiques et sociales dans le pays subiront des conséquences de la loi. Donc si un média enfreint à cette disposition, c'est de plein jour que nous prendrons les dispositions de la fermer.
Reportage de notre correspondant à Conakry à suivre dans la partie magazine. Au sommet de la Ligue arabe, le président syrien Bachar al-Assad espère une nouvelle phase dans l'action arabe commune. Le président ukrainien Zelensky attendu en personne au G7 à Hiroshima et nouvelles sanctions contre la Russie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Co pour l'instant le journal. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, a limogé le général Mohamed Abdan Daglo du Conseil militaire de transition. Plus d'un mois de guerre sans merci entre les troupes des deux généraux. Le point avec John Lyndon.
Le général al-Burhan a publié un décret nommant Malik Agar au poste de vice-président du Conseil de souveraineté des transitions à compter d'aujourd'hui à la place du général Daglo. Originaire du Nil Bleu, état frontalier de l'Éthiopie dont il a été gouverneur, M. Agar a signé en 2020 la paix avec le pouvoir de Khartoum alors qu'il était un chef rebelle. Il est membre du Conseil de souveraineté depuis février 2021. Sur le terrain, Khartoum et sa ville jumelle, Bari, ont subi de nouvelles attaques aériennes ce vendredi, aggravant la crise humanitaire pour les civils piégés et les déplacés. Les pillages massifs perpétrés par les hommes armés et les civils rendent la vie encore plus misérable pour les habitants pris au piège des combats féroces entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Selon les estimations des Nations Unies, le conflit a provoqué quelque 843 000 déplacés internes et a poussé environ 250 000 personnes à fuir vers les pays voisins.
Le gouvernement du Soudan du Sud a défendu aujourd'hui sa médiation et son rôle impartial dans ses efforts pour mettre un terme au conflit au Soudan voisin après des critiques de Khartoum. Le concept de médiation implique un engagement équilibré avec toutes les parties, a indiqué Jouba dans un communiqué. Khartoum a rendu public jeudi un mémorandum de protestation adressé au Soudan du Sud dans lequel il dénonçait la visite cette semaine d'un des responsables des forces de soutien rapide. Deux Nigériens employés du gouvernement américain enlevés mardi après l'attaque meurtrière de leur convoi dans le sud-est du Nigeria ont été libérés vendredi par les forces de sécurité. Des hommes armés avaient attaqué un convoi du gouvernement américain dans l'état d'Anambra, tuant 7 personnes, 4 policiers armés et 3 employés locaux de l'ambassade américaine avant d'enlever 2 survivants, tous de nationalité nigériane. Le lendemain de l'attaque, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, l'avait condamné dans les termes les plus forts. Toujours au Nigeria, des affrontements entre communautés ont fait plus de 100 morts et des milliers de déplacés dans le centre du pays. La police de l'état du plateau a assuré de son côté ce vendredi après-midi avoir ramené le calme dans ces villages et qu'au moins 87 corps avaient été retrouvés tandis que plus de 40 blessés étaient actuellement soignés dans les centres médicaux. Libération du médecin australien Kenneth Elliott, 7 ans après son enlèvement au Burkina Faso. Le chirurgien est rentré en Australie jeudi soir à Alexandrine Oulunion.
Docteur Elliott est sain et sauf et a retrouvé sa femme Jocelyn et leurs enfants, d'après une déclaration de la ministre australienne des Affaires étrangères. Les circonstances de la libération du chirurgien n'ont pas été divulguées, mais aucune rançon n'a été versée, selon le gouvernement australien. Enlevé à la mi-janvier 2016, près de la frontière avec le Niger avec son épouse, il aura passé 7 ans en captivité. Sa femme Jocelyn, elle, a été libérée après 3 semaines. L'enlèvement du couple a été revendiqué par le groupe djihadiste en Sardine. Le couple dirigeait depuis 1972 l'unique clinique médicale de Djibo, une ville située près de la frontière avec le Mali. Le jour de leur enlèvement, 30 personnes ont été tuées lors d'une attaque extrémiste à Ouagadougou, la capitale. Par ailleurs, une vingtaine de civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués entre lundi et mercredi dans deux attaques de djihadistes présumées dans le centre-est du Burkina Faso, frontalière du Ghana et du Togo.
Visite prochaine en Chine d'un vice-premier ministre de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, également ministre des Affaires étrangères de la RDC, se rendra en Chine du 21 au 24 mai, a annoncé ce vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président syrien Bachar al-Assad participe pour la première fois depuis plus d'une décennie au sommet annuel de la Ligue arabe. Il a exprimé aujourd'hui l'espoir que le sommet qui se tient en Arabie Saoudite va marquer le début d'une nouvelle phase de solidarité et d'action arabe commune. Mohamed Oumfa.
Nous sommes heureux d'accueillir le président Bachar al-Assad, a déclaré le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à l'ouverture du sommet. Le président syrien, exclu de la Ligue arabe fin 2011, a signé ce vendredi son retour sur la scène diplomatique après des années d'isolement. J'espère que ce sommet marquera le début d'une nouvelle phase dans l'action arabe commune en faveur de la solidarité, la paix dans la région, le développement et la prospérité au lieu de la guerre et les destructions, a déclaré le président syrien dans son discours devant ses pairs. Il a plaidé pour une nouvelle phase dans la coopération arabe en Arabie Saoudite en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a accusé certains pays de la région de fermer les yeux sur l'invasion de son pays par la Russie. Le sommet se tient dans un contexte de rapprochement entre le Royaume saoudien et l'Iran, son grand rival régional. Le pays hôte déploie des efforts pour tenter de trouver une issue au conflit au Yémen et au Soudan.
Après l'Arabie saoudite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu en personne au sommet du G7 à Hiroshima au Japon, dont les dirigeants ont dès ce vendredi annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie et se sont aussi dit inquiets du renforcement de l'arsenal nucléaire chinois. Jacques Aristide.
L'accélération du développement de l'arsenal nucléaire de la Chine, sans transparence ni dialogue significatif, est préoccupante pour la stabilité mondiale et régionale, déclarent dans un communiqué publié aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement des 7 plus grandes démocraties industrialisées, dont des puissances nucléaires. Les dirigeants du G7 condamnent également ce qu'ils appellent la rhétorique nucléaire irresponsable de la Russie. Dans une autre déclaration commune, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada ont fait part de mesures pour priver la Russie des technologies, des équipements industriels et des services du G7 qui, selon eux, soutiennent l'entreprise guerrière de Moscou. Alors qu'il devait initialement intervenir par vidéoconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit ce dimanche prendre part en personne au sommet d'Hiroshima, au dernier jour de la réunion, en compagnie des dirigeants de 8 autres pays invités par le Japon qui préside actuellement le G7. L'occasion également pour le président américain Joe Biden et les dirigeants indiens, australiens et japonais de s'entretenir demain dans le cadre de l'alliance informelle Quad de la région Indo-Pacifique.
Les forces militaires russes ont renforcé ces dernières semaines leur position défensive à l'intérieur et autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, où se trouvait ce vendredi le ministre russe de la Défense. L'Ukraine a annoncé son intention de mener bientôt une grande contre-offensive et l'on s'attend à ce qu'elle frappe dans le sud en raison de son importance stratégique en tant que pont vers la Crimée et la mer Noire. Le chef des Républicains à la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a indiqué aujourd'hui que les négociations avec la Maison-Blanche sur le plafond de la dette des États-Unis devraient être mises en pause. Quelques instants plus tôt, la Maison-Blanche a reconnu buter sur de réelles différences avec l'opposition républicaine et indiqué que les discussions étaient difficiles. L'administration démocrate et l'opposition républicaine sont engagées dans une course contre la montre pour éviter un défaut de paiement des États-Unis possible après le 1er juin. Et puis, 1 milliard de personnes dans 43 pays sont exposées au choléra, averti aujourd'hui l'ONU, et bien que les moyens de stopper cette pandémie des pauvres soient bien connus, les ressources manquent désespérément pour les mettre en œuvre.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
Au Gabon, le prix de vente du sucre a fortement augmenté. Le kilo est passé de 925 à 1500 francs CFA. Selon les autorités, cette flambée s'explique par des difficultés logistiques au niveau de la chaîne de distribution. Les fortes pluies rendent les routes impraticables, a souligné le directeur commercial de la sucrerie africaine du Gabon, Donald Nguema, ajoutant que les problèmes liés au transport ferroviaire limitent l'évacuation des stocks des usines qui sont à plus de 700 km des principales zones de vente. Au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari a inauguré hier dans l'état de Taraba une centrale hydroélectrique de 40 mégawatts avec station de distribution du barrage polyvalent de Kashimbila. L'infrastructure comprend un système d'approvisionnement en eau de 60 000 mètres cubes par jour et un système d'irrigation de 2000 hectares, a-t-il précisé. Le Nigeria veut atteindre 30 gigawatts de capacité de production d'électricité d'ici 2030. La passation de pouvoir entre M. Buhari et le nouveau président Bola Tinubu aura lieu le 29 mai. Le FMI a conclu un accord avec le gouvernement camerounais pour un décaissement de 55,2 millions de droits de tirage spéciaux pour près de 45 milliards de francs CFA. Cet accord, dans le cadre de la facilité et du mécanisme élargi de crédit, doit être approuvé par le conseil d'administration de l'institution fin juin. Une mission du fonds qui a séjourné à Yaoundé récemment a indiqué que le déficit budgétaire s'est réduit à 1,1% du PIB en 2022 contre 3% l'année précédente et que les recettes non pétrolières ont connu une nette amélioration l'an dernier.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Bâle édition Rwanda 2023, le stade malien de Bamako joue demain contre Cape Town d'Afrique du Sud.
Le stade malien de Bamako fait partie des 8 clubs africains qui prennent part à l'édition 2023 de la Basketball African League, balle au Rwanda. Le tournoi débute demain samedi 20 mai jusqu'au 27 mai 2023. Pour le coach du stade malien de Bamako, son club vise loin. Kaba Kanté est au micro de Siaka Traoré, correspondant de VOA à Bamako, au Mali.
C'est d'aller encore loin. Il nous reste 3 matchs, passer par les quarts de finale, la demi-finale et la finale. C'est-à-dire arriver au bout de cette compétition et jouer les 3 matchs qui nous restent.
Et remporter les 3 matchs pour aller en finale et remporter la finale.
Inch'Allah.
En quoi c'est important d'être à cette phase de la balle pour un club comme le stade malien de Bamako?
Le stade d'abord est habitué à des compétitions africaines. L'importance même c'est la jeunesse malienne va découvrir encore cette compétition et qui va inciter beaucoup de jeunes à s'inscrire au basket pour pratiquer cette discipline. Les locaux qui sont dans cette équipe, ces jeunes-là pourront servir l'équipe nationale dans les jours à venir. On leur demande de travailler encore davantage pour qu'ils puissent servir les stades maliens, servir l'équipe nationale, pourquoi pas aller sur les plans internationaux.
Le stade a eu des renforts, n'est-ce pas?
Oui, on a eu des renforts comme toutes les autres équipes et depuis le début de la compétition, on nous autorise à prendre 4 et on l'a fait cette fois-ci encore. Ils sont là, on travaille sereinement et tout se passe bien.
C'était Kaba Kanté, coach du stade malien de Bamako.
Ligue 1, le capitaine et défenseur brésilien Marquinhos prolonge au PSG jusqu'en 2028.
Le PSG est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouges et Bleus vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028, a indiqué le club ce vendredi dans un communiqué. Le Brésilien de 29 ans est arrivé au club à l'âge de 19 ans en 2013, en provenance de l'AS Rome.
Angleterre, Lucas Moura quittera Tottenham à la fin de la saison.
L'attaquant brésilien Lucas Moura, ancien du Paris Saint-Germain, quittera son club actuel Tottenham à la fin de la saison, ont confirmé les Spurs jeudi. Dans un communiqué, âgé de 30 ans, Moura, en fin de contrat en juin, n'a disputé que 17 matchs avec l'équipe première cette saison pour 3 titularisations, dont la victoire décisive en poule de Ligue des Champions à Marseille. Arrivé en janvier 2018 du PSG, il restera dans l'histoire du club de la capitale anglaise pour son triplé au match retour de la demi-finale de la Champions League à Amsterdam contre l'Ajax en 2019 en donnant la victoire aux siens dans le temps additionnel.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour le dossier du jour. Ce vendredi, des centaines d'habitants de la ville de Gao, dans le nord du Mali, étaient dans la rue pour dénoncer les coupures d'électricité en ces temps de forte chaleur. Ils dénoncent aussi la qualité de l'eau de robinet et l'absence de services financiers de l'État dans cette région. La situation sécuritaire préoccupe également ces populations du nord. Bagassi Koura a joint Abdoul Karim Samba, président du mouvement de la résistance civile de Gao.
Depuis un an, la population de Gao souffre d'une fin de coupure de l'électricité dans la région. Il y a eu des conférences, il y a eu des dénonciations encore à travers pour que l'État puisse prendre ses responsabilités à soulager la souffrance des populations. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Gao a tenu les régions du Nord et puis Gao, aujourd'hui seulement on est à 43 degrés. Imaginez-vous, une zone où on est à 43 degrés, comme à l'éveil, personne, les enfants peuvent vivre sans l'électricité. Qui s'ajoute aussi du fait que ça fait chuter l'économie. Parce qu'aujourd'hui, combien de jeunes travaillent avec l'électricité? Les fineurs, les tailleurs, les coiffeurs, etc., etc., qui travaillent, n'est-ce pas, avec l'électricité, ils n'en ont pas. Qui s'ajoute aussi à des femmes qui font des commerces, n'est-ce pas, à base d'électricité à travers les frigos, hein, pour vendre les jus de gingembre. Il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Si ça ajoute à l'insécurité davantage, parce qu'il y a une ville où il n'y a pas d'électricité, mais bonjour, comme on appelle l'insécurité, il vit déjà que Gao vit dans ça depuis des années.
Et qui a organisé la manifestation?
C'est les organisations de la société civile, les organisations qui ont depuis fort longtemps commencé à dénoncer, ils sont venus le maire pour dire que les gens sont là, il y a des questions, on a été déjà rassemblés et puis. Pour montrer leur avoir par rapport à la question.
Vous avez évoqué il y a quelques instants la situation sécuritaire. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Comment est la situation sécuritaire autour de Gao et dans Gao?
La situation sécuritaire, ça va. C'est pas parce que il y a pas de sécurité que mais on le dit. La sécurité qui existe déjà, si. Il faut ajouter le culte de l'électricité, quand ça va s'empirer. Donc, pour parler de la sécurité de la région de Gao, il faut comprendre que la Gao est l'épicentre du Nord. Et c'est l'épicentre de la crise du Mali. Aujourd'hui, il y a des allumements qui circulent, des braquages, des mauvais bombages, parce que les gens, les grandes bases de terroristes qui entendent d'être détruites par l'armée malienne et leurs alliés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chevilles prisonniers qui sont terroristes, qui sont en débandade. Mais depuis, ils s'abattent sur les populations qui utilisent tout ce qu'ils vont manger pour commettre des crimes et puis faire des amusements pour avoir de l'argent.
C'était Abdoul Karim Samba, responsable de la société civile à Gao.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
En Guinée, l'annonce par le porte-parole du gouvernement de fermer tout média qui attise la haine provoque la colère des journalistes. Par rapport à la connexion Internet dans la capitale, depuis quelques jours, le ministre des Postes et Télécommunications a dit que son gouvernement n'a pris aucun acte dans ce sens. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les associations professionnelles de presse parlent d'actions liberticides engagées par l'autorité de régulation des postes et télécommunications contre les médias guinéens. Dans une déclaration publiée jeudi à Conakry, elle condamne ce qu'elle considère comme une censure pour Talibé Barry, membre du bureau de l'Union des radios-télévisions libres de Guinée. Il ne revient pas au gouvernement de fermer une radio en Guinée.
Le FEDI, en synergie avec l'ensemble des associations et organisations professionnelles de la presse, condamne ces propos et rappelle au ministre et par extension au gouvernement qu'il ne revenait pas donc ni au gouvernement ni à la présidence de décider de la fermeture ou non des médias. C'est une prérogative qui relève exclusivement de la haute autorité de la communication.
Jeudi, le ministre des Postes et Télécommunications porte-parole du gouvernement, avait affirmé aux journalistes:
nous sommes dans ce gouvernement de transition engagés à respecter la liberté de la presse et une presse responsable. Tous les propos à attiser les tensions politiques et sociales dans le pays subiront les conséquences de la loi et nous en assumerons toute la responsabilité, que cela soit dit aussi. Donc si les médias enfreignent à cette disposition, c'est de plein jour que nous prendrons les dispositions de la fermer.
Ousmane Gawal a tenu ses propos au cours d'un point presse après le Conseil des ministres et 24 heures après une opération de gendarmes sur le site d'émission du groupe Afrique Vision. Deux émetteurs ont été arrachés et emportés, nous a confié Sanou Kerfala Cissé, PDG du groupe.
Mon interlocuteur, parce que je ne sais pas c'était qui en face de moi, m'a lancé sur la figure qu'en quelques secondes, qu'ils sont en mission d'État au compte de l'ARPT et ils ont fini d'exécuter leur mission. J'ai envoyé le responsable technique qui allait sur le lieu, qui allait effectivement constater que l'émetteur de Sabaré FM et de l'Euro FM ont été arrachés du rack. Donc, on s'est retrouvé face à cette situation. Nous avons essayé de comprendre ce qui n'allait pas.
FIM FM, une autre station privée, a porté plainte ce vendredi pour brouillage de sa fréquence. Concernant la polémique sur le réseau Internet, le porte-parole du gouvernement a tenu à apporter des précisions. Si le gouvernement avait pris la décision d'interrompre Internet, de fermer Facebook ou WhatsApp, on l'aurait annoncé. On n'est pas dans ce cas. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les pays africains plaident pour plus d'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme qui prend de l'ampleur sur le continent. Appel lancé ce vendredi au terme d'un symposium sur la paix en Afrique qui se tenait au Rwanda. Reportage de Jean Damascène Manishimwe à Kigali.
L'Union africaine indique que le terrorisme est le plus grand danger à la paix sur le continent africain et ses manifestations se diversifient. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il faut agir vite.
Le continent est confronté à deux questions importantes, celle de la Corne de l'Afrique et la question du Sahel. Aujourd'hui, le débat, c'est comment alors mettre en place effectivement l'architecture africaine du maintien de la paix. Il est absolument nécessaire de faire une évaluation objective et voir comment il faut faire face au phénomène du terrorisme qui se manifeste dans plusieurs régions dans le continent africain. Il est bien vrai que le phénomène au départ n'était pas endogène, mais maintenant il recrute sur place. Ce sont des jeunes Africains qui sont recrutés.
Pour le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération Vincent Biruta, le problème de la gouvernance doit accompagner les efforts de stabilisation du continent. Les analystes politiques indiquent que les pays africains doivent conjuguer leurs efforts pour assurer pleinement la paix et pour faire face aux autres puissances qui menacent l'intégrité de l'Afrique. C'est l'avis de l'activiste panafricaniste, le professeur Patrick Otieno Lumumba.
Nous, en tant qu'Africains, devons cesser de travailler isolés. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement l'Europe, il existe une nouvelle façon de se partager l'Afrique. Les Chinois sont ici, les Turcs et les Qataris également, tous sont revenus. Les bases militaires que vous verrez ici, on vous dira que si vous ne vous comportez pas comme ils le souhaitent, ils utiliseront la force.
Même si la première responsabilité de sécuriser le continent revient aux Africains, cela n'exclut pas la coopération internationale, d'après l'Union africaine. Il déploie par ailleurs la réticence de la communauté internationale à appuyer les pays africains dans ce combat pour la paix.
Des coalitions internationales ont été formées en Irak, en Syrie, avec des centaines de milliers d'hommes et des milliards qui ont été dépensés pour arrêter le terrorisme, l'État islamique, Al-Qaïda et autres. Nous avons demandé à ce que ces coalitions-là puissent se former également pour extraire ces phénomènes du continent africain, ce qui n'a pas été fait. Alors c'est pour cela que j'ai dit... Il y a une responsabilité collective.
Ce symposium de Kigali sur la paix en Afrique a insisté que si l'on veut faire prévaloir les solutions africaines aux problèmes africains, il faut s'en donner les moyens en commençant d'abord par les foyers du terrorisme déjà identifiés et en évitant que d'autres régions africaines ne soient atteintes. Jean-Thomas Sénimane-Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En sport, les finales de la Basketball Africa League saison 3 débutent demain samedi 20 mai à Kigali Arena dans la capitale rwandaise. Sur les 12 équipes réparties dans les deux conférences, Nil et Sahara, 8 se sont qualifiées pour ces playoffs et se disputeront la couronne du champion en titre, l'US Monastir de la Tunisie, éliminé dès la phase de poule. Sur place à Kigali, la correspondance de nos envoyés spéciaux, Cheikh Tiro et Yakuba Ouedraogo.
Deux matchs couperaient ce samedi en ouverture des playoffs de la Basketball Africa League dans la Kigali Arena. Dans le premier, en quart de finale, le stade malien de Bamako qui découvre la compétition affronte Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud. Bien que novices dans cette balle, les Maliens ont fini premier de la conférence à Sahara et se positionnent dans cette compétition comme une redoutable équipe. C'est l'avis de Queen Sejon, journaliste freelance nigériane qui a fait le déplacement de Kigali.
Nous voyons des équipes qui jouent pour la première fois et veulent être compétitives sans simplement faire de la figuration. Par exemple, nous avons vu le stade malien dans la conférence du Sahara jouer pour la première fois à la balle. Mais on dirait qu'ils jouent chaque saison. Ils jouent avec beaucoup de courage et ils sont très athlétiques.
Depuis sa toute première édition en 2021, Kigali accueille pour la deuxième année consécutive les finales de la BAL après avoir habité toute la compétition en 2021 dans une bulle en plein Covid. C'est une fierté pour certains de ses habitants comme Olivier Tushinyisenge.
C'est une nouvelle excellente opportunité que nous avons en tant que pays. Et je pense que cela va montrer au monde que nous sommes capables de le faire et de le gérer. Cela ne concerne pas seulement les pays africains, mais aussi les pays européens. Ils verront que nous pouvons réussir en tant qu'Africains.
Pour la ministre rwandaise des Sports, Aurore Mimosa Munyankasu, c'est un honneur pour son pays.
Nous sommes très honorés, nous sommes très contents de pouvoir accueillir la troisième édition des playoffs au final de la BAL. C'est toujours une belle expérience et une très bonne opportunité pour nous, pour le Rwanda et pour le pays, de pouvoir mesurer notre évolution, surtout dans la capacité d'organiser un événement d'une telle ampleur.
Ce travail de promouvoir le basket sur le continent a commencé avec la première édition de la Basketball Without Borders, organisée à Johannesburg en Afrique du Sud en 2003. De cette expérience sont nés des talents qui donnent plus que jamais raison à la balle d'exister. Le dernier exemple en date, c'est la consécration du Camerounais Joel Embiid comme meilleur joueur de la saison régulière en NBA, lui qui est passé par ce Basketball Without Borders en 2011 pour exprimer son talent. Pour le président de la balle, Amadou Galofal, cela justifie davantage la naissance de cette balle.
Le travail qui s'est fait sur le terrain s'est manifesté avant ce titre de MVP de Joël, mais ce titre vraiment cimente pertinence du travail et l'opportunité que la NBA et la FIBA avaient vu de s'investir pour populariser le basketball, pour la rendre accessible.
Pour Amadou Galofal, ces talents africains profiteraient davantage au continent si les joueurs concernés revenaient jouer pour leur pays respectif. Pour l'heure, des talents locaux s'expriment bien à travers la balle, dont les quarts de finale débutent ce samedi avec l'opposition Stade malien de Bamako, Cape Town Tigers et plus tard le choc attendu entre REG et Al Ahly d'Égypte. Ces deux rencontres se jouent à guichet fermé. Yakuba Ouedraogo, Cheikh Tiro, VOA Afrique, Kigali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Buon à ce micro, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.